Selon un commun accord, Ober s'assit le premier pour se faire tatouer. L'homme au sourire édenté était l'un des tout premiers à avoir cru en Kaladin, lequel se rappelait ce jour-là. Épuisé par une course au pont, il ne rêvait que de s'allonger et de regarder dans le vide, au lieu de quoi il avait choisi de sauver Ober, plutôt que de le laisser mourir. Kaladin s'était également sauvé lui-même ce jour-là. Le reste du pont 4 se tenait debout sous la tente autour de Ober et regardait en silence la tatoueuse s'activer sur son front, recouvrant la cicatrice de sa marque d'esclave à l'aide des glyphes fournis par Kaladin. La douleur du tatouage faisait parfois grimacer Ober, mais il gardait le sourire. Kaladin avait entendu dire que l'on pouvait recouvrir une cicatrice à l'aide d'un tatouage, ce qui se révéla fonctionner plutôt bien. Une fois l'encre du tatouage injectée, les glyphes attiraient l'œil, et l'on distinguait à peine que la peau était tatouée en dessous. Une fois le processus terminé, la tatoueuse tendit un miroir à Ober pour qu'il s'y regarde. L'homme de pont toucha son front d'un geste hésitant. La peau était rougie par les aiguilles, mais le tatouage noir couvrait parfaitement la marque d'esclave.
« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda tout bas Ober, les larmes aux yeux.
« Liberté ?» expliqua Sigzil, avant que Kaladin puisse répondre. « Ce glyphe signifie liberté. »
Les plus petits au-dessus, ajouta Kaladin, indiquent la date à laquelle vous avez été libéré et par qui. Même si vous perdez votre décret de libération, toute personne qui tentera de vous emprisonner en tant que fuyard pourra facilement obtenir la preuve du contraire. Elle pourra aller trouver les scribes de Dalinar Colline qui gardent une copie de votre décret. Ober hocha la tête.
C'est bien, mais pas suffisant. Ajoutez-y pont 4. Liberté, pont 4.
Pour indiquer que vous avez été libéré du pont 4 ?
Pas du tout. Je n'ai pas été libéré du pont 4, j'ai été libéré par lui. Je n'échangerai pour rien au monde le temps que j'y ai passé.
C'était là des propos insensés. Le pont 4 avait représenté la mort. Des dizaines d'hommes s'étaient fait tuer en portant ce pont maudit. Même après que Kaladin avait résolu de sauver ses hommes, il en avait perdu beaucoup trop. Ober aurait été stupide de ne pas saisir l'occasion de s'échapper. Malgré tout, il resta obstinément assis pendant que Kaladin traçait les glyphes adéquates pour la tatoueuse, une femme calme et robuste qui paraissait capable de soulever un pont à elle seule. Elle s'installa sur son tabouret et entreprit d'ajouter les deux glyphes sur le front de Ober, juste en dessous du glyphe de liberté. Elle passa toute la durée du processus à répéter que le tatouage serait douloureux pendant plusieurs jours et à expliquer comment Ober devrait s'en occuper. Il accepta ses nouveaux tatouages avec un sourire aux lèvres. C'était de la bêtise pure et simple, mais les autres hochèrent la tête en signe d'approbation et lui serrèrent le bras. Lorsqu'il en eut terminé, un Scar impatient s'empressa de s'asseoir pour demander la même série de tatouages. Kaladin recula, bras croisés, et secoua la tête. À l'extérieur de la tente, une place de marché animée vendait et achetait des marchandises. Le camp de guerre était en réalité une ville, bâtie à l'intérieur d'une immense formation rocheuse évoquant un cratère. La guerre prolongée dans les plaines brisées avait attiré toutes sortes de commerçants, ainsi que des artisans, des artistes, et même des familles avec des enfants. Moash se tenait debout non loin de là, l'expression troublée, observant le tatoueur. Il n'était pas le seul de l'équipe de pont à ne pas porter de marque d'esclave. Teft non plus. Ils avaient été désignés comme hommes de pont sans être techniquement nommés esclaves en premier lieu. C'était chose courante dans le camp de Sadeas, où les courses au pont étaient une punition que l'on pouvait se voir infliger pour toutes sortes d'infractions. « Si vous n'avez pas de marque d'esclave, déclara tout haut Kaladin à ses hommes, vous n'êtes pas obligé de vous faire tatouer. Vous faites toujours partie des nôtres. »
« Non, répondit Rock. Je veux avoir cette chose. »
Il insista pour s'asseoir après Scar et se faire tatouer au milieu du front, bien qu'il ne porte pas de marque d'esclave. En réalité, tous les hommes dépourvus de marque, Beld et Teft compris, s'assirent pour se faire tatouer sur le front. Seul Moash s'abstint et demanda qu'on place le tatouage sur son avant-bras. C'était une bonne chose. Contrairement à la plupart d'entre eux,
il n'aurait pas à se promener en affichant son statut d'ancien esclave à la vue de tous. Quand Moash se releva du siège, un autre prit sa place. Un homme à la peau marbrée, rouge et noire. Le pont 4 rassemblait des hommes extrêmement différents, mais Shen appartenait à une catégorie à part. C'était un parche.
« Je ne peux pas le tatouer, » déclara l'artiste. « Il appartient à quelqu'un. »
Kaladin ouvrit la bouche pour protester, mais les autres hommes de pont le précédèrent.
« Il a été libéré comme nous, » déclara Teft.
« Il fait partie de l'équipe, » ajouta Auber. « Donnez-lui ce tatouage, ou vous ne toucherez plus la moindre sphère d'aucun d'entre nous. »
Il rougit après avoir prononcé ces mots et lança un coup d'œil à Kaladin, qui allait payer pour l'ensemble, grâce aux sphères accordées par Dalinar Colin. D'autres hommes de pont prirent la parole, et la tatoueuse céda enfin, avec un soupir. Elle approcha son tabouret et se mit au travail sur le front de Shen.
« Vous n'arriverez même pas à le voir, »
grommela-t-elle, bien que la peau de Sigzil soit presque aussi sombre que celle de Shen, et que le tatouage soit parfaitement apparent sur lui. Enfin, Shen regarda dans le miroir, puis se leva. Il se tourna vers Kaladin et hocha la tête. Shen ne parlait pas beaucoup, et Kaladin ne savait que penser de lui. En réalité, il était assez facile de l'oublier, car il se contentait généralement de rester à l'arrière du groupe d'hommes de pont et de les suivre en silence, invisible. Les parches étaient souvent ainsi. Quand Shen en eut fini, ne resta que Kaladin lui-même. Il s'assit après lui et ferma les yeux. La douleur des aiguilles était nettement plus vive qu'il ne s'y attendait. Quelques instants plus tard, la tatoueuse se mit à jurer à mi-voix. Kaladin ouvrit les yeux tandis qu'elle lui essuyait le front à l'aide d'un chiffon.
« Que se passe-t-il » demanda-t-il.
« L'encre ne prend pas !» s'exclama-t-elle. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quand j'essuie votre front, l'encre s'efface. Le tatouage ne veut pas rester. »
Kaladin soupira et comprit qu'il restait un peu de fulgiflamme courant dans ses veines. Il n'avait même pas eu conscience de l'aspirer, mais il semblait devenir de plus en plus doué pour la contenir. Ces jours-ci, il en absorbait fréquemment une petite quantité quand il se promenait. Contenir la fulgiflamme, c'était comme remplir une outre de vin. Si on la remplissait à ras-bord et qu'on la débouchait, elle jaillissait rapidement, puis s'écoulait lentement en un filet. Même chose avec la fulgiflamme. Il l'exhala en un petit nuage de fumée brûlante, espérant que la tatoueuse ne s'apercevrait de rien.
Faites un nouvel essai, lui demanda-t-il tandis qu'elle sortait une nouvelle dose d'encre.
Cette fois, le tatouage prit. Kaladin resta assis jusqu'au bout, serrant les dents pour encaisser la douleur, puis leva les yeux lorsqu'elle lui tendit le miroir. L'homme qui rendit son regard à Kaladin lui sembla étranger. Rasé de près, les cheveux tirés en arrière pour lui dégager le visage pendant qu'on le tatouait, les marques d'esclaves recouvertes et pour l'instant oubliées.
« Est-ce que je peux redevenir cet homme-là ? » se demanda-t-il en levant la main pour toucher sa joue.
« Il est mort, non ?» Syl atterrit sur son épaule et vint regarder dans le miroir avec lui.
« La vie avant la mort, Kaladin ?» murmura-t-elle.
Il aspira inconsciemment un peu de fulgiflamme, juste un peu, une petite fraction du contenu de la sphère. Elle se diffusa dans ses veines comme une vague de pression, comme des vents pris au piège d'un petit espace clos. Sur son front, le tatouage s'effaça. Son corps rejeta l'encre, qui se mit à couler le long de son visage. La tatoueuse jura de nouveau et s'empara de son chiffon. Kaladin regarda les glyphes se dissiper. La liberté s'effaça, et les cicatrices violentes de sa captivité apparurent en dessous, dominées par un glyphe marqué au fer rouge. Chash, dangereux. La femme lui essuya le visage.
« Je ne sais pas pourquoi ça se produit. Je pensais que ça tiendrait cette fois-ci.
Ne vous en faites pas, » répondit Kaladin qui lui prit son chiffon en se levant pour achever de se nettoyer. Il se tourna vers les autres, les hommes de pont désormais soldats.
« Les cicatrices n'en ont pas encore fini avec moi, semble-t-il. Je réessaierai une autre fois. »
Ils hochèrent la tête. Il faudrait qu'il leur explique plus tard ce qui se passait. Il connaissait ses pouvoirs.
« Allons-y, »
leur dit Kaladin, qui lança un petit sac de sphère à la tatoueuse avant de reprendre sa lance près de l'entrée de la tente. Les autres le rejoignirent, lance sur l'épaule. Ils n'avaient pas besoin d'être armés à l'intérieur du camp, mais ils voulaient qu'ils s'habituent à l'idée qu'ils étaient désormais libres de porter des armes. Le marché extérieur était bondé et animé. Les tentes, bien entendu, avaient dû être démontées et rangées pendant la tempête majeure de la nuit, mais elles avaient déjà réapparu. Parce qu'il pensait à Shen, peut-être, il remarqua les parches. D'un coup d'œil hâtif, il en repéra une douzaine qui participaient au montage des dernières tentes, transportaient les achats des pales iris, aidaient les commerçants à entreposer leurs marchandises.
Que pense-t-il de cette guerre dans les plaines brisées ? Se demanda Kaladin.
Une guerre destinée à vaincre et peut-être à assujettir les seules parches libres au monde ?
Si seulement il pouvait soutirer à Shen les réponses à ce genre de questions. Il ne semblait jamais obtenir de lui que des haussements d'épaules. Kaladin guida ses hommes à travers le marché, qui semblait bien plus accueillant que celui du camp de Sadeas. Bien que les gens regardent fixement les hommes de pont, personne ne se moqua d'eux, et le marchandage des étals tout proche, quoique énergique, ne céda pas la place à des cris. Il semblait même y avoir moins de mendiants et de gosses des rues.
« C'est seulement ce que tu veux croire, » songea Kaladin. « Tu veux croire que Dalinar est l'homme que tout le monde prétend, le pâle iris honorable des récits. » Mais tout le monde disait la même chose d'Amaram.
En chemin, ils croisèrent quelques soldats trop peu nombreux. Des hommes qui s'étaient trouvés de garde au camp tandis que les autres partaient pour l'attaque désastreuse au cours de laquelle Sadeas avait trahi Dalinar. Lorsqu'ils rencontrèrent un groupe qui patrouillait dans le marché, Kaladin surprit deux hommes à l'avant en train de lever les mains devant eux pour les croiser au niveau des poignets. Comment avait-il appris l'ancien salut du pont 4 et si vite? Ces hommes ne firent pas un salut complet, simplement un petit geste, mais ils courbèrent la tête devant Kaladin et ses hommes sur leur passage. Soudain, il perçut différemment le calme qui régnait dans le marché. Peut-être n'était-ce pas simplement l'effet de l'ordre et de l'organisation caractéristique de l'armée de Dalinar. Il régnait dans le camp une atmosphère de peur étouffée. La trahison de Sadeas avait coûté des milliers de vies. Tout le monde ici avait sans doute connu quelqu'un qui était mort sur ces plateaux, et tout le monde se demandait probablement si le conflit entre les deux hauts princes allait s'intensifier.
« C'est agréable d'être vu comme un héros, hein ?»
interrogea Sigzil, qui marchait près de Kaladin en regardant passer un autre groupe de soldats.
« Combien de temps cette bonne volonté va-t-elle durer, à votre avis ?» s'enquit Moash. « Combien de temps avant qu'il ne nous en veuille ?»«
Ah !» Rock, qui se dressait derrière Moash, abattit la main sur son épaule.
« Pas se plaindre aujourd'hui, tu fais trop cette chose. M'oblige pas à te donner des coups de pied, j'aime pas faire ça, ça me fait mal aux orteils. »«
Me donner des coups de pied ?» ricana Moash. « Rock, tu refuses même de porter une lance !»«
Les lances ne servent pas à donner des coups de pied à ceux qui se plaignent, mais des grands pieds d'un kalaki comme les miens, c'est pour ça qu'ils sont faits. Cette chose est évidente, non ?»
Kaladin mena les hommes hors du marché en direction d'un grand bâtiment rectangulaire près des baraquements. Celui-ci était fait de pierres taillées plutôt que spirigantées, ce qui permettait une bien plus grande finesse de détail. Ce type de bâtiment était de plus en plus fréquent dans les camps de guerre, où les maçons arrivaient en nombre croissant. La spirigantation était plus rapide, mais aussi plus coûteuse et moins flexible. Ils ne savaient pas grand-chose à ce sujet, simplement que les spirigantes possédaient des propriétés limitées, raison pour laquelle les baraquements étaient tous quasiment identiques. Kaladin conduisit ses hommes à l'intérieur du haut bâtiment, vers un comptoir où un homme aux cheveux grisonnants et à la bedaine aussi large qu'une bourse bien remplie supervisait des parches qui entassaient des rouleaux de tissu bleu. C'était Rind, l'intendant général de Colline, auquel Kaladin avait envoyé des instructions la veille au soir. Rind était un pâle iris, mais faisait partie de ceux qu'on appelait les rangs 10, un statut humble à peine au-dessus de celui des sombres iris.
Ah ! S'exclama Rind, dont la voix haut perchée semblait mal assortie avec sa corpulence. « Vous voilà enfin. Je les ai tous sortis pour vous, capitaine, tout ce qui me reste. »«
Ce qui vous reste ?» demanda Moash.
Les uniformes de la garde Cobalt. J'en ai commandé des nouveaux, mais c'est ce qui nous restait en réserve. »
Rind ajouta un ton plus bas.
« Je ne pensais pas avoir si vite besoin d'autant d'uniformes, vous comprenez ?»
Il jaugea Moage de la tête aux pieds, puis lui tendit un uniforme et désigna une cabine où il pourrait se changer. Moage s'en empara.
« Nous allons porter nos gilets de cuir par-dessus ?»«
Ah !» répondit Rind. « Ceux auxquels vous avez attaché assez d'os pour ressembler à un porte-crâne de l'Ouest un jour de fête J'en ai entendu parler. Mais non, le clarissime Dalinar dit que vous devez être équipé chacun d'un plastron, d'un casque en acier, d'une nouvelle lance, et de cottes de mailles pour le champ de bataille si nécessaire. »
« Pour l'heure, répliqua Kaladin, les uniformes suffiront. »
« Je vais avoir l'air débile là-dedans, » grommela Moash,
mais il alla se changer. Rind leur distribua les uniformes. Il lança un regard curieux à Shen, mais lui remit un uniforme sans protester. Les hommes de pont se rassemblèrent dans la confusion, jacassant avec animation tout en dépliant leurs uniformes. Il y avait longtemps qu'aucun d'entre eux n'avait porté autre chose que le cuir des hommes de pont ou les pagnes des esclaves. Ils se turent quand Moash ressortit. C'étaient là des uniformes plus neufs et d'un style plus moderne que celui que Kaladin avait porté lorsqu'il servait dans l'armée. Un pantalon bleu amidonné, des bottes noires cirées et brillantes. Une chemise blanche dont seuls les poignets et le bord du col dépassaient de la veste, qui descendait à la taille et se boutonnait sous le ceinturon.
« Alors ça, c'est un soldat !» s'exclama l'intendant. « Vous trouvez toujours que vous avez l'air débile ?»
Il fit signe à Moash d'inspecter son reflet dans le miroir, accroché au mur. Moash boutonna ses manchettes en rougissant. Kaladin l'avait rarement vu à ce point perturbé.
« Non, effectivement, » répondit Moash.
Les autres s'empressèrent d'aller se changer. Certains le firent dans les cabines situées sur les côtés de la pièce, mais la plupart s'en moquaient. C'étaient des hommes de pont et des esclaves. Ils avaient passé la majeure partie de leur vie récente à se promener en pagne ou guère plus. Teft revêtit le sien avant tous les autres. Il savait comment enfiler correctement les boutons.
« Ça faisait longtemps, » murmura-t-il en bouclant sa ceinture. « Pas sûr que je mérite de porter à nouveau ces choses-là. »«
C'est ce que vous êtes, Teft, » lui dit Kaladin. « Ne laissez pas l'esclave en vous prendre le dessus. » Avec un grognement, Teft fixa son couteau de combat à l'emplacement réservé sur sa ceinture.
« Et vous, gamin, quand allez-vous avouer ce que vous êtes ?»«
C'est fait. » »«
À nous, mais pas à tous les autres. » »«
Ne recommencez pas avec ça. »
« Je recommence si je veux, nom des bourrasques !»
aboya Teft avant de se pencher en baissant la voix.
« Au moins jusqu'à ce que vous me donniez une véritable réponse. Vous êtes un fluctomancien. Vous n'êtes pas encore un radieux, mais vous en deviendrez un quand tout ça sera terminé.
Les autres ont raison de vous bousculer.
Pourquoi ne pas aller trouver Stipe, ce Dalinar, aspirer un peu de fulgiflamme et l'obliger à vous reconnaître comme un paliris ?»
Kaladin lança un coup d'œil vers la masse confuse des hommes de pont qui tentaient d'enfiler leur uniforme, tandis qu'un Rind exaspéré leur expliquait comment refermer les manteaux. « Tout ce que j'ai jamais possédé, Teft, » chuchota Kaladin, « les pâles iris me l'ont repris. Ma famille, mon frère, mes amis. Plus, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils voient ce que je possède. » Et ils me le reprennent. » Il leva la main et distingua faiblement des volutes brillantes qui s'échappaient de sa peau, car il savait quoi chercher. « Ils me le prendront. S'ils parviennent à découvrir ce que je fais, ils me le prendront. »
« Par l'haleine de Kelek, comment ferait-il une chose pareille ?»«
Je n'en sais rien, » répondit Kaladin. « Je n'en sais rien, Teft. » Mais je ne peux pas m'empêcher de paniquer quand j'y pense. Je ne peux pas les laisser l'avoir, les laisser me le prendre, ni vous prendre tous. Gardons le silence sur mes capacités, n'en parlons plus. » Teft grommela tandis que les autres hommes finissaient de s'habiller. Mais Lopen, avec son bras unique, sa manche vide retournée et rentrée pour éviter qu'elle ne pende, tâta la pièce de tissu sur son épaule.
« Qu'est-ce que c'est ?»
« L'insigne de la garde Cobalt, » déclara Kaladin, « les gardes du corps personnel de Dalinar Colline.
Ils sont morts, Gancho, répliqua Lopen. Ce n'est pas ce que nous sommes.
Ouais, approuva Scar.
Sous les yeux d'un Rind horrifié, il sortit son couteau pour découper l'insigne.
Nous sommes le pont 4.
Le pont 4 était votre prison, protesta Kaladin.
Peu importe, répondit Scar. Nous sommes le pont 4.
Les autres acquiescèrent et se mirent à découper les insignes avant de les jeter à terre. Teft hocha la tête et fit de même.
Nous allons protéger l'épine noire, mais nous n'allons pas nous contenter de remplacer ces anciens gardes. Nous sommes notre propre équipe.
Kaladin se frotta le front. C'était là ce qu'il avait accompli en les réunissant. En les poussant à former une unité soudée.
Je vais dessiner une paire de glyphes qui constituera notre insigne, dit-il à Rind. Vous allez devoir en commander de nouveau.
L'homme corpulent soupira tout en ramassant les insignes tombés à terre.
Sans doute, j'ai votre uniforme là-bas, capitaine.
Un capitaine sombriris. Qui aurait cru ça possible? Vous serez le seul dans l'armée,
le seul qu'il y ait jamais eu à ma connaissance.
L'idée ne parut pas le choquer. Kaladin avait peu d'expérience avec les pâles iris de dames peu élevées comme Rind, bien qu'il soit chose courante dans les camps de guerre. Dans sa ville natale, il n'y avait que la famille du bourgmestre, d'un dan intermédiaire, et les sombres iris. Ce n'était qu'en rejoignant l'armée d'Amaram qu'il avait pris conscience qu'il existait tout un spectre de pâles iris, dont beaucoup exerçaient des métiers ordinaires et peinaient à gagner leur croûte comme les gens ordinaires.
Kaladin se dirigea vers la dernière pile posée sur le comptoir. Son uniforme était différent. Il comportait un gilet bleu ainsi qu'un long manteau bleu croisé à la doublure blanche et aux boutons d'argent. Le manteau était censé rester ouvert, malgré les rangées de boutons qui longeaient les deux côtés. Il avait souvent vu ce genre d'uniforme, sur des pâles iris.
« Pont 4 !»
déclara-t-il en découpant l'insigne de la garde cobalt sur son épaule pour le jeter sur le comptoir, avec les autres.